la revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
C'est peu dire ce matin que l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis inquiète les commentateurs de l'actualité internationale.
Avec cette question qui parcourt à peu près toute la presse, et maintenant, sommes-nous vraiment à la veille d'un possible conflit ouvert entre Washington et Téhéran ? Comme toujours, l'exercice de prospective est risqué, mais il ne rebute pas apparemment l'américain Warren Gettler. Dans le quotidien israélien Haaretz, il se fait fort de nous expliquer comment la guerre entre l'Iran et l'Amérique va commencer. Comme si cette guerre n'était plus une possibilité, mais bien une évidence. Et si Gettler en est aussi convaincu, eh bien c'est qu'il nous décrit deux camps tout aussi bunkérisés, piégés l'un que l'autre. Donald Trump par ses conseillers faucons, virulemment anti-iraniens, et Téhéran qui est écrasé économiquement par les sanctions américaines et n'a plus d'autre moyen d'action que de provoquer à nouveau l'Occident avec cette menace de relancer son programme nucléaire. Mais l'étincelle, prédit Warren Gettler, donc dans Haaretz, viendra sans doute plutôt du terrain militaire au Moyen-Orient. Il parie sur une attaque de groupes armés pro-chiites et donc pro-iraniens contre des troupes américaines ou leurs alliés en Syrie ou en Irak. Nous voilà prévenus à la Maison-Blanche, les Mike Pompeo et John Bolton n'attendent que cela pour justifier une intervention américaine. En fait, et c'est cette fois Hanschel Pfeffer, toujours dans Haaretz, qui l'écrit, l'Iran, en passant au registre de la menace, tombe exactement dans le piège qui lui est tendu. Mais faut-il lui en vouloir qu'on ne s'y trompe pas et qu'on ne réécrive pas non plus l'histoire? Ce ne sont pas les Iraniens, mais bien les Américains qui ont piétiné les premiers, il y a un an, l'accord sur le nucléaire iranien. Le retrait annoncé hier par Hassan Rouhani n'est que peu de choses par rapport à celui tonitruant de Donald Trump il y a donc un an.
D'ailleurs, Camille, cette histoire-là ne s'écrit pas seulement entre Américains et Iraniens.
Et c'est ce que se charge de rappeler le journal russe Kommersant. Ce que le président iranien a fait hier, c'est clairement remettre les Européens face à leurs responsabilités, les obliger à exister, à s'affirmer face à l'Amérique de Trump. C'est tout l'objet de l'ultimatum de 60 jours posé par les Iraniens avant la relance de l'enrichissement de leur uranium. Mais le souci, eh bien, c'est que les Européens, leur presse en tout cas, ne semblent pas se remettre en question. Dans Der Tagesspiegel, Julia Schauble se contente de renvoyer dos à dos les va-t-en-guerre côté iranien et côté États-Unis. Et c'est à peine si son compatriote Klaus-Dieter Frankensberger évoque dans son analyse pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung le dilemme que cette crise pose à la France, à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Trois pays européens, trois puissances qui manquent clairement d'une position commune forte pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Pourtant, comment imaginer que Téhéran pourrait défendre seul son économie, son secteur pétrolier et ses banques face aux sanctions américaines qui l'étranglent, s'interroge Frankensberger, sans un appui réel des Européens. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Iran renonce à sa politique agressive dans un Moyen-Orient où Israël et l'Arabie Saoudite l'attendent au tournant. Mais il faut bien le reconnaître avec l'Espagnol Angeles Espinoza dans El País que pour le moment, eh bien, les Américains font mine de ne pas avoir compris le message. En témoigne la position française exprimée par la ministre des Armées Florence Parly. Hier, elle s'est bornée à menacer à son tour Téhéran de sanctions plus lourdes encore de la part non plus des seuls Américains mais du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est tout l'inverse de la réponse espérée par l'Iran.
Et la presse américaine, elle, s'inquiète de la remise en cause du droit à l'avortement dans toute une série d'États.
Oui, l'alerte est venue d'abord cette semaine de Géorgie où, nous dit le Washington Post, le gouverneur républicain Brian Kemp a signé mardi ce qu'on appelle aux États-Unis un Heartbeat Bill, un amendement dit du battement de cœur parce qu'il rend illégal toute interruption volontaire de grossesse à partir du jour où l'on peut déceler une activité cardiaque du fœtus à l'échographie, soit généralement à partir de la sixième semaine. Décryptage par l'association du planning familial américain citée par le Courrier international. Avec cette loi en Géorgie, c'est l'avortement en général qui devient interdit puisqu'à six semaines, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Et avec ce cas géorgien, on s'est rendu compte que plusieurs États américains avaient déjà pris de telles lois du battement de cœur, l'Iowa, le Kentucky, le Dakota du Nord, le Mississippi, l'Ohio. Heureusement, nous dit le New York Times, dans la plupart des cas, des tribunaux locaux ont bloqué ces mesures, mais il n'y a pas moins une tendance générale à la restriction drastique du recours à l'IVG. Désormais, c'est vers l'Alabama que se tournent tous les regards. L'Alabama, où toujours, selon le New York Times, le Sénat de l'État pourrait pourrait voter dès aujourd'hui une mesure qui pousse encore plus loin la répression de l'avortement. En fait, toute interruption de grossesse serait de facto bannie sans même limite de temps, dès la conception donc. Il a fallu attendre hier au dernier moment pour que des exceptions soient ajoutées pour les victimes de viol ou d'inceste. En l'état, le projet de loi de l'Alabama prévoit de criminaliser non seulement les femmes, mais aussi les médecins qui pratiqueraient des IVG, qui risqueraient jusqu'à 99 ans de prison. On va donc beaucoup plus loin dans la répression et l'on se demande ce qu'il reste de la jurisprudence qui rendait légal l'avortement jusqu'à la 24e semaine de grossesse aux États-Unis. Une jurisprudence qui date de 1973, c'est l'arrêt de la Cour suprême dit Roe contre Wade. Les républicains semblent avoir juré sa perte. Ils n'en ont jamais été aussi près. La loi votée aujourd'hui dans l'Alabama se retrouvera immanquablement contestée devant la Cour suprême. Et l'on sait que dès la prochaine nomination d'un de ses juges par Donald Trump, eh bien, cette Cour devrait compter une majorité de juges anti-avortement.
Merci beaucoup Camille Magnard et des États-Unis. On va passer aux États-Unis d'Europe. Il est 7h41 sur France Culture, suite des matins.